Les échos de l'innovation présentent.
Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Graphite 94.9 pour les échos de l'innovation, la dernière émission. Donc aujourd'hui on va parler de Big Data, mais qu'est-ce que le Big Data, vous allez me dire? Le Big Data regroupe des données, une grande variété de données, arrivant en volume croissant, un très grand volume, avec une grande vitesse. C'est ce qu'on appelle à peu près la règle des 3 V. Les 3 V, donc premier V, le volume, car c'est une grande quantité de données qui est traitée, donc qui est non structurée et à faible densité. Une vitesse, parce que la vitesse de traitement des données est très haute. Et variété, car il y a de nombreux types de données qui sont disponibles dans le Big Data. Et à l'heure actuelle, le Big Data revêt une importance capitale dans notre société, que ce soit au niveau des entreprises ou même autres. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Big Data, comme je vous l'ai dit, mais sur une problématique bien donnée. Le Big Data est-elle une menace pour notre vie privée? Donc je vais vous présenter deux teams. Une team qui est pour le fait que le Big Data est une menace pour nos vies privées, et une team contre. Est-ce que la team pour pouvez vous présenter?
Alors oui, voilà. J'espère qu'on m'entend bien.
On t'entend bien, t'inquiète.
Alors moi c'est Lucas, je suis actuellement en TC et du coup je suis avec Oliver.
Donc bonjour à tous, moi c'est Oliver Piquemal et je suis en GU4.
Est-ce que la team contre pouvez vous présenter s'il vous plaît?
Oui, bonjour, moi je suis Benoît, je suis actuellement étudiant en génie informatique et je ne pense pas que le Big Data soit une menace pour notre vie privée.
Bonjour à tous, bonjour Nasser, moi je m'appelle Louane et donc je pense que le Big Data est en aucun cas un problème ni ne pose de menace pour notre vie privée et nous allons, moi et mon équipe, le prouver lors de notre petit débat.
Oui, et moi c'est Nouria, entre en commun aussi et je suis d'accord avec Louane et Benoît.
Très bien, en tout cas je suis très content que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Donc j'aurais déjà quelques questions pour vous. Est-ce que vous avez une anecdote marrante, une anecdote sur le Big Data?
Si vous voulez je peux vous donner des anecdotes de stage où j'ai travaillé dans des bases de données.
Vas-y, tu
et,
peux.
En fait, un jour, en gros c'était mon tuteur de stage qui me montrait un peu les commandes. Et il y a une commande dans une base de données qui permet de tout effacer quoi. Et il l'a montré en live. Et il a supprimé toute la base de données de l'entreprise et j'ai trouvé ça très très drôle.
Mais est-ce qu'après il a pu la récupérer?
Oui, je pense qu'il y a eu moyen.
J'espère pour lui en tout cas.
J'espère pour lui parce que sinon je pense pas que ça aurait été mon maître de stage après.
je pense aussi. Donc pour ouvrir un peu le débat d'aujourd'hui, à part si quelqu'un a une autre anecdote. D'accord, personne n'en a une.
Vous avez jamais eu des anecdotes par exemple à propos de la publicité ciblée sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit?
Moi je me suis rendu compte que bon déjà dernièrement je ne sais pas si à vous aussi ça le fait mais dès qu'on rentre dans un site déjà on nous bombarde de cookies là en acceptant tous les champs là, je sais pas si
les
ça vous le fait.
Conditions d'utilisation.
Non, c'est pas des conditions d'utilisation,
c'est pour les cookies. Uniquement les cookies.
Ouais, c'est ça, c'est
en gros c'est dû à la loi RGPD.
Je connais pas du tout.
En gros on en parlera peut-être après parce que là c'est juste on va juste parler des anecdotes mais c'est une loi qui a. Parce que les entreprises faisaient trop de magouilles avec les données personnelles.
Ah oui, oui, ok.
L'Union européenne est intervenue pour dire ouais, faut arrêter quand même utiliser les données personnelles des gens sans leur consentement. Et depuis, voilà.
Et maintenant, ils adoptent une stratégie assez intéressante qui est, si on n'accepte pas les cookies, souvent il faut payer pour pouvoir accéder au contenu, que ce soit des forums, des articles. Ça, et donc, c'est une stratégie apparemment qui fonctionne pour
les
grosses entreprises.
C'est Non, Webedia.
Webedia.
Webedia qui fait ça.
Ok, très bien. Donc, je vais un peu ouvrir ce débat, du coup, avec un sondage réalisé auprès des étudiants de l'Université de technologie de Compiègne, donc en leur demandant si le Big Data était-elle une menace pour notre vie privée. Donc, nous avons pu remarquer que 81 personnes qui ont répondu à ce sondage n'avaient pas vraiment de connaissances par rapport au Big Data, et je trouve ça vraiment dommage, surtout dans notre société où le Big Data est vraiment très important. Il faut quand même prendre conscience de tout cela. 37 personnes ont légèrement voté en disant que ce n'était plus une menace, mais déjà la réalité. Donc vous pouvez après réagir par rapport à ça. 19 personnes ont pensé que le Big Data était un danger qui pourrait mettre en péril notre vie personnelle dans le futur. 4 personnes ont pensé que c'était une bonne question et qui ne s'étaient jamais juste posé la question, donc qui sont assez mitigés. Et une personne a pensé que le Big Data peut à la fois améliorer nos vies, mais s'il est mal utilisé, cela peut être très dangereux. Donc je vais passer directement au débat.
C'est l'heure du débat.
Bon, Maintenant, nous allons commencer le débat. Et du coup, j'ai quelques questions pour vous. Et après, vous pouvez réagir directement avec le sondage et aussi les questions qui vont passer. Première question. Le volume des données d'entreprises à travers le monde double environ tous les 1 an et quelques mois ou 2 ans.
Alors, si je peux me permettre, je pense qu'il s'agit de tous les 2 ans. Ouais, exactement.
Je dirais tous les 1 an. Les 1 an ou les 1 an et quelques mois, pas les 2 ans.
Alors, non,
pas
pour ce qui est de moi et Oliver, donc la team pour, je pense que c'est aux alentours d'1 an. Ouais.
1 an ou 1 an et quelques mois ?
1 an.
Moi je dirais 1 an et quelques mois, mais je sais pas si
ouais, peut-être 1 an et quelques mois.
Parce que alors, vous ans, pouvez pas prendre toutes les réponses.
Choisissez s'il vous plaît.
Il va falloir trancher là.
Entre 1 an et quelques mois et 2 ans.
On prend 2 ans parce qu'ils ont pris 1 an et quelques mois parce qu'ils ont eu la priorité, mais bon, voilà quoi.
Ils ont pris 1 an.
Ah, bah moi je prends. Bah moi je suis pour 1 an et quelques mois, je sais pas pour ma team, vous êtes pour quoi ?
Allons-y.
Allez, 1 an et quelques mois.
Vous avez raison, c'est 1 an et quelques mois.
Oui, et c'est
j'ai juste victoire. Envie de dire qu'on les a influencés dans leur choix parce qu'à la base ils étaient pour 2 ans.
Benoît avait dit 1 an et quelques mois avant.
Ça, c'est ce que vous dites. En tout cas, je sais que les spectateurs sont avec nous.
Revenons au débat. Donc, pour en revenir, c'est 1 an et quelques mois, mais pour être plus précis, 1,2 ans. C'est quand même très précis. Deuxième question, combien d'heures de vidéos sont téléchargées sur YouTube chaque minute ? 35 heures, 60 heures ou 100 heures ?
100 heures. Vraiment.
Ouais, 100 heures.
100 heures, voire plus.
J'aurais dit 100 heures aussi.
Toutes les heures ? Attends.
35, 60, 100.
Tu peux répéter la toutes question ?
Toutes les minutes. Ouais, la
question. Combien, ouais, d'heures, non, combien d'heures de vidéos sont téléchargées sur YouTube chaque minute ?
Ouais. 100.
100 heures. 100 heures,
100 heures. Ah, 100 heures.
Télécharger ou regarder ? Oui. Ouais.
Télécharger.
Télécharger. Ah, sur YouTube.
Je sais pas, il faut croire qu'il y a.
Attends, tu peux télécharger sur YouTube ?
Mais non, c'est téléchargé uploadé. Dire...
Ah,
ouais,
c'est
ah bah ouais. Oui, 100 heures, vas-y.
100 heures.
La réponse est 100, donc ouais. Vous avez tous les deux raison. Au niveau des équipes.
Parfait, okay. Normal.
Selon l'IDC, donc l'International Data Corporation, le marché du Big Data représentera quelle valeur en 2017 ? Enfin, représentait quelle valeur en 2017, d'après vous ? 16 milliards, 32 milliards ou 48 milliards ?
48 oh. milliards, je pense que...
Ça me paraît beaucoup quand même, 48 milliards.
Alors, on va faire confiance à Loïc sur cette question.
48 milliards ?
Je rappelle, c'est en 2017.
Donc pour nous,
en 2017.
En 2017.
C'était quand même il y a 4 ans, quoi.
Oui.
C'était il y a 4 ans, exactement. Ouais. Non, mais du coup, je pense que pour nos teams, en tout cas pour la team pour, donc je pense qu'on serait parti sur 32, c'est ça ?
Ouais, 32. Ouais.
Ok, donc 32 milliards.
Ok, donc c'est 32 milliards. Je suis vraiment désolé pour ceux qui ont choisi 48 milliards.
Et c'est l'égalité.
L'égalité. J'espère que tu as.
Ok.
Il y a une dernière question pour départager.
Il y en a encore deux.
Il y en a encore deux. Oh.
Donc, quatrième question. Quelle entreprise informatique est le plus grand fournisseur Big Data dans le monde ? Dell, HP ou IBM ?
IBM.
Je pense que.
Vas-y. Alors, donnez votre réponse.
Pour notre équipe, en tout cas, on pense que c'est IBM et de loin.
Moi, j'aurais dit IBM, quoi.
Ouais.
J'aurais dit IBM, mais c'est quoi les deux autres ?
HP. Dell et HP.
Dell et HP ? En vrai, je sais pas.
Moi, je pense que c'est IBM.
IBM,
il est vraiment partout.
Ok.
Ouais.
Dans bah, IBM aussi.
En vrai, on peut se dire une autre réponse, dans tous les cas, soit c'est égalité. Soit...
Oui, s'il vous plaît, là.
Dépêchez-vous
de se mettre sur la chance de commencer.
Avant,
on vous a laissé. Comment ouais,
du coup, votre dernier mot
bah, on va dire
IBM aussi.
IBM.
C'est IBM, vous êtes encore à égalité.
Et oui, et la dernière question pour départager.
Aucune personnalité.
Combien...
Aucune personnalité.
On se calme, laissez-moi raconter la dernière, de poser la dernière question. Donc combien de gigaoctets y a-t-il dans un hexaoctet ? 1 millier, 1 million ou 1 milliard ?
C'est 10.
Giga, c'est...
Ça commence à tricher.
Mais non, pas du tout.
Reposez ça, s'il vous plaît.
Vas-y, répète la question, s'il te plaît, Nasser.
Combien de gigaoctets y a-t-il dans un hexaoctet ? 1 millier, 1 million, 1 milliard.
Un milliard, je veux dire. Parce que ouais, c'est giga. Et hexa, ça veut dire hexaoctet, c'est genre juste tu doubles les octets, donc. Donc tu divises par 2, en vrai j'aurais dit 500 millions, tu vois, vu que...
Attends, c'est quoi les réponses du coup
1 millier, 1 million.
Bah, 1 milliard.
1 milliard.
Moi, je dis 1 million.
Je suis sûr que c'est 1 million, mais je pense
que... Bah, je pense que pour la Team Pop, c'est 1 million.
Je suis sûr que c'est 1 million, mais je pense que c'est 1 million.
Vous avez dit 1 million, 1 milliard.
Ouais, j'ai 1 milliard.
La réponse est 1 milliard.
Ouais. Voilà.
Mais c'est, attends, mais c'est quoi un hexaoctet? Parce que comparé à un octet, c'est quoi la différence entre...
Hexa, c'est fois...
Non, mais c'est... En gros, tu prends tes gigaoctets, et en gros, c'est juste une valeur, en fait, une unité pour les giga...
Non, mais tu confonds pas, parce que octet, tout simplement, c'est genre... 10 puissance 30 octets, tu vois. Donc, je sais pas, genre. Je pense que c'est octet la mesure, mais je suis pas sûr.
Oui, c'est octet.
Oui, c'est okay. Octet la mesure.
Ok.
Oui, et puis d'ailleurs, j'ai dit octet.
Ah, t'as pas dit hexa-octet ?
Oui,
hexa-octet.
J'ai compris. Mais c'est comme giga, tu vois.
C'est comme giga.
Je pense qu'il y a eu un problème avec la question, c'est pour ça qu'il faut.
Je pense, que non,
je pense qu'il y a un problème avec le médiateur.
Toujours un problème par rapport à ça.
Faisons confiance au médiateur.
Et c'est une première victoire pour la team contre.
Et nous allons voir si ça va continuer. Donc maintenant, je vous laisse commencer le débat. Donc peut-être réagir par rapport au sondage déjà qui a été fait sur This is Smile, le groupe de l'UTC.
Alors je trouve ça plutôt dommage qu'une majorité des étudiants de l'UTC et des UTC1 en général ne se sont pas informés tout simplement sur la question. Et sachant que nous sommes une école d'ingénieurs, je trouve ça relativement triste.
Ok, mais du coup, par rapport au débat, est-ce que tu as envie d'apporter un élément ?
Alors oui, tout d'abord que le Big Data nous apporte aujourd'hui énormément de choses. Et je commencerai tout d'abord sur au niveau marketing, parce qu'en fait, le Big Data nous permet de mieux cibler des clients et ainsi leur apporter exactement ce dont ils ont besoin et ce dont en fait, ils cherchent et qu'ils n'arrivent peut-être pas à trouver. Et le marketing, justement, permet d'apporter cette réponse.
Ok, d'accord. moi, j'ai une question à te poser.
Vas-y.
Si je te disais « présente-toi », qu'est-ce que tu me dirais ? Tu me donnerais peut-être ton âge ? Tu me donnerais ton nom, prénom ? D'accord. Mais si j'étais une entreprise spécialisée dans ton mode de consommation, toutes ces informations, je les saurais déjà. C'est-à-dire que uniquement avec ce que tu cherches sur Internet, je connais ton orientation sexuelle, je connais pour qui tu votes, tes goûts musicaux, ce que tu manges tous les jours, à quelle heure tu dors. Qu'est-ce que tu réponds à ça ?
Eh bien, tout simplement que tu viens de modifier la définition du Big Data qui est donnée de masse et donc qui est créée justement, normalement anonymisée, et donc qui permet de gérer, on va dire, des tendances générales sur une partie de la population et non pas sur une personne particulière. Donc l'entreprise en particulier ne saura jamais qui je suis à proprement parler. Par contre, ils vont pouvoir dire « les Français aiment le beurre salé ».
C'est complètement faux. C'est complètement faux. Et d'ailleurs, Yvain Alexandre de Montjoie, un Belge et spécialiste, et très réputé pour ça d'ailleurs, un spécialiste et un chercheur dans tout ce qui est la protection des données et l'anonymisation des données. Alors lui, il a dit que simplement avec six questions, on pouvait trouver exactement l'identité de la personne. Et ces six questions pourraient être aussi simples qu'elles seraient... Et toutes les réponses se trouveraient sur Facebook, par exemple. Des questions du genre « Quel âge tu as ? Où est-ce que tu habites ? À quelle université tu es allé ?» Tout ça, en six questions, je peux savoir qui vous êtes.
Après, si tu parles de Facebook, c'est vrai qu'il faut aussi ne pas trop divulguer ces informations. Je pense qu'il y a moyen de régler, par exemple, Apple avec sa nouvelle mise à jour. Tu peux empêcher Facebook de récupérer tes données. Si tu n'as pas envie que tout le monde sache ce que tu fais, tu essayes de ne pas trop divulguer tes informations sur Internet. Je pense qu'il faut aussi parfois essayer de préserver ces données si on n'a pas envie qu'elles se sachent par tout le monde.
Alors, je ne sais pas pour votre part, mais en tout cas, pour ce qui est de... Parce que là, du coup, on est sur l'exemple de Facebook. Pour ma part, quand vous vous inscrivez sur Facebook, vous êtes obligé, entre guillemets, de donner... des informations obligatoires. Sinon, votre compte ne se crée pas, dont le numéro de téléphone avec une validation, etc. Ce qui permet à Facebook de récupérer ces données. De plus, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai plus trop les chiffres en tête, mais par exemple, les conditions d'utilisation que vous cochez, entre guillemets, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une étude qui a été menée comme quoi, par exemple, pour 60 applications données, si on lisait toutes les conditions d'utilisation, on en aurait pour 6 mois de lecture. Sachant qu'on a fait du coup des tests sur des personnes en université et que pour 70% d'entre elles ne lisaient même pas les conditions d'utilisation. Donc ça veut dire qu'elles pouvaient accepter tout et n'importe quoi puisqu'elles n'ont pas lu les conditions d'utilisation.
Elles n'ont pas lu les conditions d'utilisation alors qu'il était précisé lors de la petite case, comme tu sais très bien, j'approuve avoir lu les conditions générales d'utilisation. Et donc, il n'en vient que du ressort de la personne qui prend la responsabilité que les informations divulguées ensuite sur l'application soient diffusées sur Internet publiquement.
Et du coup, toi, tu es OK avec ça ? Tu es OK par rapport au fait que toutes tes données puissent fuir ?
De toute façon, moi, je pense que les conditions d'utilisation ne peuvent pas valoir une loi, tu vois. Et en fait, le problème principal qu'on a en ce moment, je suis d'accord pour dire qu'il y a un problème par rapport aux données personnelles, mais en fait, c'est parce que ces technologies, elles sont encore nouvelles. Tu vois, ça a 10 ans. Et on peut prendre plein d'exemples. Il n'y a pas encore de vraie législation sur ça. On essaye de plus en plus à en instaurer.
Elles sont en train d'être créées.
Ouais, non, elles ne sont pas en train de elles dire. Déjà, on a fait un gros pas en avant depuis de 2010 à aujourd'hui. Et on va faire de plus en plus de gros pas. Parce que de nos jours, les données sont pas... C'est vrai que là, je ne peux pas... Même si je suis pour le big data, en général, c'est vrai qu'en ce moment, les GAFA, notamment Amazon, Google, utilisent nos données personnelles. Et ça, c'est parce qu'ils abusent encore de la loi. Mais je vais dire, c'est un peu pareil pour la sécurité routière. Tu prends un exemple. La ceinture, elle a été inventée,
59.
Ouais, 59. Et c'est 30 ans après la démocratisation de la voiture. Donc, c'est pour dire que, en gros... Je pense que c'est vraiment un travail qui doit se faire sur les lois et c'est pour ça que, fur et à mesure, c'est comme on est encore dans une optique de nouvelles technologies, c'est pour ça que ça ne menace pas. Vrai. C'est pour ça que, pour l'instant, c'est un peu mauvais, mais que ça peut que s'améliorer au fil des années.
Mais du coup, tu es quand même en train de me dire que tu es d'accord avec le fait qu'il y ait une fuite de données, quoi. Que
mes données, en fait,
c'est... Il ne s'agit pas d'une fuite, on approuve le fait... Parce que les conditions générales d'utilisation sont...
C'est différent. Et après aussi, il y a un autre truc, c'est... Toi, implicitement, tu approuves d'utiliser ces sites-là, alors qu'il y a des alternatives qui existent, qui n'utilisent pas tes données à un escient. Par exemple, typiquement, on prend l'exemple de Facebook. Ok, t'as un réseau social et tout. Déjà, le simple fait d'être dans un réseau social, tu publies déjà ta vie privée devant tout le monde, et après, tu t'étonnes que tes données soient...
Alors, c'est vrai, mais pour en revenir à Facebook, je suis d'accord qu'on partage un certain nombre de données. Ça, je te l'accorde. Mais cependant, quand on voit les algorithmes des plus grands réseaux sociaux, qui, quand on like quelque chose, nous crée entre guillemets un profil selon les publications qu'on a likées. Oui. Et donc à partir de là, c'est pas des informations que nous avons entre guillemets partagées. C'est plutôt un algorithme qui a fait entre guillemets centrer notre recherche.
Exactement, qui nous fait parvenir justement des informations pour qu'elles soient les plus pertinentes possibles. Est-ce que tu aimerais recevoir des informations qui ne t'intéressent absolument pas ? Non, tu souhaites voir des choses.
Mais je souhaite pas non plus être fliqué à chaque fois que je regarde quelque chose, quoi. Enfin,
ça c'est un problème des GAFA, tu vois. Mais c'est pas que le big data, quoi. Genre si tu résumes le big data qu'aux GAFA, bah c'est sûr que ouais, ça menace la vie privée. Mais
il y a pas que les GAFA, hein. Je sais pas si tu sais, mais quand tu passes ta carte vitale, t'as plein de sites français qui récupèrent toutes tes données pour savoir quel type de
médicaments. Mais c'est parce que les législations, elles sont en train d'être créées, justement, pour faire en sorte. Parce que c'est encore une nouvelle technologie. Exactement. Il y a 10 ans, ça existait même pas, ce genre de truc.
Non, d'accord, mais aujourd'hui, t'es quand même en train de me dire qu'il y a un problème avec la vie privée, c'est-à-dire avec uniquement quelque chose de l'État, c'est-à-dire avec ma carte vitale. T'as des entreprises qui connaissent mes données.
Oui, mais ça, c'est comme dire, cet outil, genre, on va pas se mentir, le big data, c'est génial, ça permet de faire plein de trucs, mais c'est parce que les gens l'utilisent à tel escient, parce que ça rapporte de l'argent. Alors qu'en vrai, et là, je suis d'accord avec vous sur ce point, c'est vrai qu'en ce moment, on est un peu fliqués, mais c'est pas à cause du big data. Faut pas dire que c'est à cause du big data, c'est parce que t'as des mecs, des actionnaires qui font nous faire le plus d'argent, c'est ça. Et les législations, elles essayent d'aller dans le sens contraire pour dire... essayer d'aller plus dans la vie privée. Et aussi, ces données peuvent servir notamment à la recherche. Et tu vas me dire, ok, c'est vrai qu'être fliqué, c'est pas forcément fou, mais quand ça sert à la recherche, que tes données sont anonymes, je pense que ça peut aider.
Mais tes données ne sont pas anonymes.
Bah, ça dépend.
Ça dépend, elles notamment pour la recherche. Pour la recherche, les données sont complètement anonymes. Et dans la recherche, c'est un cadre très sérieux. Bah, ils veulent pas avoir de problème en général, comme les GAFA, et leur but n'est pas lucratif. Donc c'est vraiment pour prouver des choses. Et dans ces cas-là, tu auras forcément une personne qui va te contacter pour dire oui, on veut utiliser tes données, es-tu d'accord ? Et s'il dit non, juste de rester anonyme, tu resteras anonyme.
Mais du coup, là où est le majeur problème de la récupération de ces données, entre guillemets, comme tu disais, pour des expériences...
Pour la recherche
en général. Pour la recherche en général, voilà, excuse-moi. Ces données... elles sont récupérées et, entre guillemets, ces données, elles sont faites, du coup, pour, entre guillemets, de plus en plus exploitées, entre guillemets, dans le sens où on récupère des données qui nous font, par exemple, cerner la population d'un certain pays, par exemple, et donc plus consommée, on va dire, de manière générale.
Pas forcément consommée.
Mais bah si, après les données,
c'est pas forcément. On met consommer. Des publicités en avant sur, par exemple, des applis des réseaux sociaux. On met des publicités en avant pour acheter des produits qu'on est censé, entre guillemets, aimer
mais,
selon
mais
ce qu'on a liké.
Mais c'est une partie.
C'est qu'une partie, ouais,
oui. Oui, le big data, ça se résume pas qu'aux données personnelles.
C'est aussi, ça peut faire avancer la science, comme on a parlé avec. Ça fait avancer la médecine, ça permet, on va dire, de créer
il mène des études, profils. Par exemple, sur l'écologie. La collecte et l'analyse des données permettent de mieux comprendre les phénomènes de changement climatique, des impacts météorologiques.
Et moi, j'aimerais enfin dire un truc, c'est que, ok, on utilise ça pour de la publicité, mais c'est comme si tu me dis que Gutenberg, il a inventé l'imprimerie, c'était juste pour imprimer des tracts pour les distribuer pour faire de la pub.
Je tiens à recentrer un peu le débat, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de s'égarer ici. Le débat, c'est le big data est-elle une menace pour notre vie privée ? Donc on parle des big data nous concernant, on s'en fout des big data pour l'environnement. Non, mes données personnelles.
Alors personnellement, pour vraiment recentrer un peu le débat, oui, ça parle vraiment de la vie privée. Mais en tant que tel, le big data ne se résume pas qu'aux données personnelles.
Donc si on le voit dans sa globalité, on ne peut pas le dire qu'il est mauvais. Enfin, si on prend tout le big data dans sa globalité, tout ce qui nous permet de faire, finalement, ce petit désagrément n'est rien comparé à tout ce qui nous permet de faire.
Je ne suis pas en train de dire que le big data est mauvais. Je suis juste en train de dire que moi, ça me dérange qu'on utilise mes données personnelles à des fins lucratives.
Il ne faut pas accuser le big data, il faut accuser les entreprises plutôt.
Oui, voilà, le big data est un moyen en tant que tel. Il ne s'agit rien de plus. C'est pas...
Oui, ce sont des informations sur toi, mais c'est ce que je suis en train de dire depuis le début. En fait.
Et je veux dire que depuis l'ère du numérique, t'es fliqué depuis toujours. Et en fait, ces scandales, ils sont que assez récents depuis Cambridge Analytica. Voilà, depuis qu'on a eu connaissance de ça.
Peux-tu nous expliquer Cambridge Analytica, s'il te plaît ?
Bah, je pense que vous avez fait des recherches vu que vous êtes contre le big data et j'ai regardé un petit peu.
Alors, oui. donc, je sais pas si t'as su du coup.
Oui, je
sais. Du coup, je sais pas si tu peux résumer entre guillemets l'histoire, mais grosso modo, c'était un chercheur en psychologie qui a du coup développé une application qui a permis entre guillemets à des gens, des hommes politiques comme par exemple Donald Trump, de cibler ce que voulaient les gens, ce que recherchaient les gens et pour qui ils allaient voter, et ce qui a permis entre guillemets de bien cerner ce que voulaient les gens et du coup d'avoir entre guillemets la réponse à l'élection présidentielle avant même d'avoir les votes.
En fait j'ai confondu avec l'affaire Snowden.
C'est la même chose.
Le mec, c'était une personne qui travaillait à la NSA.
Ouais.
C'est la sécurité nationale aux États-Unis et qui disait comment l'État espionnait tout le monde. Et je pense que c'est depuis ce moment-là, parce que c'était bien avant Cambridge Analytica, c'était pendant le mandat de Barack Obama.
Oui.
Depuis ce moment-là, on a appris que le numérique, voilà, ça peut tout se conserver et tout, mais ça se conserve depuis le début. Et genre, je veux dire, c'est pas depuis le big data, c'est juste.
Non, d'accord, c'est que avant, on était entre guillemets uniquement espionné par les services secrets.
Ça a toujours été le cas avant. C'est pas nouveau. Le big data, c'est un moyen qui permet de traiter des informations.
Mais je veux dire.
De collecter, de traiter, mais pas de.
C'est comme un peu l'amiante, on va dire, dans le sens où, à l'époque, on l'utilisait beaucoup, sans savoir ses effets. Et une fois qu'on a su ses effets, on a eu une réaction en mode, oui, c'est cancérigène et tout, et on a arrêté de l'utiliser. Et là, c'est un peu pareil pour le big data, c'est en mode, on utilisait ça à bon escient, toutes les technos, pendant 20 ans durant l'ère numérique, et il y a à peu près moins de 10 ans, un jour, on a appris qu'en fait, on était fliqués tout le temps, et tout le monde était en mode, mais c'est impensable et tout. Et ça a toujours été comme ça.
Mais donc, tu es en train de me dire que tu acceptes qu'on te flique tout le temps ?
Je dis pas que j'accepte qu'on me flique tout le temps.
Mais ça te dérange ou pas ? Enfin, très, très honnêtement, je te pose la question. Ça te dérange d'être traqué tout le temps ou pas ?
En fait, ce que j'essaye de faire, c'est d'utiliser moins le téléphone possible pour éviter ce genre de choses. Parce que de nos jours, c'est vrai que genre, si on se fie qu'aux entreprises, forcément, elles menacent notre vie privée.
Surtout que, par exemple, au Big Data, quand tu télécharges des applications de jeux qui te demandent accès à ton micro, accès à ta caméra et accès à ta position, l'application, elle en a besoin pour quoi, en fait ?
Ça dépend pourquoi. Par exemple, il me prend le cas de Pokémon Go, typiquement. Là, tu as vraiment besoin d'une géolocalisation pour savoir...
Pour le coup, tu as raison. Ouais, là, je suis d'accord. Mais moi, par exemple, je parlais par exemple de Duolingo. Enfin, la position, est, on me demande...
C'est pour ça qu'ils te le demandent. Donc, si tu veux pas, tu refuses.
Tu peux refuser.
Donc, il te pose la question. Si tu n'as pas envie, tu refuses. Et voilà, tout simplement, le problème arrive.
Mais quand tu refuses, généralement, c'est question à l'arrivée d'une application. Derrière, tu as des restrictions sur l'application.
Bah oui, bien sûr. Mais du coup, si on ne veut pas être fliqué, on n'utilise pas justement ces applications. C'est un peu comme... on autorise l'application à accéder à ces données à partir du moment où on coche cette case. Donc c'est une volonté. C'est même pas on est fliqué mais on le veut pas. C'est on est fliqué mais on veut pas. Mais pourtant, on a quand même utilisé une application et on l'a autorisé à prendre nos données.
Mais si on résume comme toi, en fait, le problème, c'est que sur long terme, on ne peut plus rien faire, en fait. Toutes les applications qui sont développées, ça ne sert à rien de les télécharger parce qu'elles prennent toutes nos données. Donc au final, est-ce que ça a une utilité d'avoir un téléphone? Je ne sais pas.
Mais tout dépend justement de ce qu'on cherche personnellement.
D'accord, mais il y a des données que prêtent des applications qui sont inutiles. Par exemple, quand je vois que certaines applications de jeux vidéo permettent de d'établir si tu es patient, ton goût du risque, ton découragement face à un obstacle, on crée quand même un profil assez précis sur toi. Hein. Qu'est-ce que tu aimes? Tes apparences, vers qui tu votes. On sait pour qui tu vas voter en fonction... J'étais en train d'écouter un des PDG de... Enfin, non, c'était pas un des PDG, excusez-moi. Mais j'étais en train de regarder un documentaire sur Spotify et les gars, ils disaient, avec votre profil Spotify, je peux savoir pour qui vous votez. Pourquoi Spotify a besoin de savoir ça?
Est-ce que vous auriez une source par hasard?
Je peux te retrouver la vidéo, c'est sur Cache Investigation, c'est un documentaire de Cache Investigation. Qui s'appelle les données personnelles. Vous pourrez le trouver là-dedans.
Après, c'est un modèle économique comme un autre, déjà. De une, parce que Spotify... c'est payant, Spotify, ou pas?
Oui, c'est payant.
Ok. Bon, bah, du coup, là, j'ai pas d'argent.
Si, mais après, te permet aussi, après, je sais pas si tu as Spotify, mais moi, c'est... Enfin, je préfère leur donner mes données et qu'après, ils puissent me proposer des musiques que j'écoute en fonction de mes goûts, tout ça. Enfin, c'est une expérience que... Enfin, c'est quelque chose que j'apprécie sur Spotify, c'est qu'ils puissent me conseiller, donner des... Bien,
et savoir pour qui tu votes, ça te permet de savoir...
Ils le savent.
Parce qu'ils vont utiliser des algorithmes, parce qu'on a les outils. C'est comme je te dis, avec Pokémon Go, on peut te tuer parce qu'on peut balancer un satellite vu qu'on a ta position.
Mais finalement, ce qu'ils en font, ces données-là, c'est...
Non.
Ça se réduit à ce que l'application propose, c'est-à-dire proposer des chansons que tu aimerais bien, quoi.
Ouais, voilà. T'as toujours si été on en prend le problème plus loin, goût, oui. Tu mais... vois, genre, pour te dire, ouais, ok, là, musicalement, j'ai envie de chercher des goûts qui ressemblent à telle musique, mais je trouve pas. Grâce à Spotify, tu découvres.
Alors, oui, ça, je suis d'accord avec vous, mais un autre point, par exemple, le terme de sécurité. On est d'accord qu'une application peut admettre qu'elle ne dévoilera jamais vos données, entre guillemets. Cependant, on peut remettre en question là où sont données les données. Est-ce qu'elles sont réellement assurées dans le fait que, par exemple, si je prends l'exemple du cloud, c'est une des inventions majeures de ces dernières années, mais c'est un peu ce qui a, entre guillemets, rendu possible le phénomène de Big Data. Mais on peut remettre en question cette sécurité.
Tu sais que, dis-toi que depuis l'arrivée du Big Data, c'est évolué en même temps que la question de la cybersécurité. Ça veut dire qu'en même temps que la Big Data évolue, la cybersécurité évolue. Et donc c'est beaucoup plus sécurisé qu'à une certaine époque. Mais c'est vrai que de ce côté-là, il n'y a jamais un risque zéro, mais c'est comme, moi, je vais prendre l'exemple des banques, par exemple. Quand, à l'époque, t'achètes quelque chose avec ta carte de crédit, toi, ta banque sait quels sont tes goûts. Et s'il y a une faille de sécurité dans la banque, c'est foutu. Alors qu'avec le Big Data, on arrive à améliorer cette sécurité.
C'est pas une question de faille, c'est pas une question de sécurité, c'est une question de vendre des informations à d'autres personnes. Est-ce que tu savais combien tu coûtes? Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous êtes posé la question, combien coûte une personne?
Très très cher, j'imagine.
Eh ben pas du tout. Toi, tu es un étudiant, donc tu coûtes moins de 3 centimes. Tes données valent moins de 3 centimes.
Les données, pas ma personne.
Tes données, tout ce qu'on sait de toi, tout ce qu'on sait de toi vaut 3 centimes. Moins de 3 centimes, tu te rends compte? C'est un business qui se fait par rapport à toi. Par rapport à toi, une personne qui n'existe pas vraiment parce qu'elle n'est pas physique, ce sont des données qu'on a sur toi. Mais avec ça, on sait tout sur toi. et même presque plus que toi-même sur toi-même.
Mais là, je reviens encore sur le problème des législations, tu vois. C'est genre, cette vente de données devrait être interdite et c'est pour ça que les États évoluent. Pour
oui, d'accord, mais aujourd'hui, elle ne l'est pas. Mais aujourd'hui, donc, c'est un problème de la vie privée, non ? C'est, ça porte mais, atteinte à notre vie privée.
Mais j'ai une question pour vous. Pensez-vous, alors, que par exemple, sur les réseaux sociaux ou même d'autres types de sites, par exemple, on peut même utiliser, je ne sais pas, des crypto-monnaies, par exemple, pour payer sur des sites, je ne sais pas, de livraison ou autre. Pensez-vous que nous devons, par exemple, utiliser des faux noms, falsifier, par exemple, notre identité sur le réseau, pour éviter d'être fliqué, par exemple, comme disait Oliver, par exemple, par des entreprises ou autres.
Ah, c'est pour ça aussi, Nasser, qu'il y a énormément de gens qui créent, entre guillemets, des fake accounts, du fait de ne pas connaître, entre guillemets, la vraie identité de la personne qui a ce compte, tout simplement afin d'espionner d'autres personnes.
Mais surtout si on extrapole là, Nasser, on pourrait très bien dire, d'accord, on peut créer des faux comptes, on peut aussi également, on va dire, se faire passer pour d'autres personnes sur tout type de réseau. Mais au final, c'est pour éviter la vente de données personnelles, si j'ai bien compris, que l'on crée ces faux comptes.
Mais je pense aussi, en général, quand tu utilises les réseaux sociaux, il y a aussi un accord comme quoi tu acceptes de divulguer une partie de ta vie sur Internet.
Et par rapport, c'est un cas particulier. C'est parce que pendant les réseaux sociaux, nous, on peut publier ouvertement, oui, bonjour, je suis ici, tu vois. Donc, oui, sur Facebook, tu peux faire un statut là-dessus.
Je vote pour tel parti.
D'accord.
Tu vois, genre mais pour les réseaux sociaux, je trouve que... Ouais,
et sur le profil qu'on se fait uniquement par rapport à tes recherches Internet, ou le fait qu'on lise tous tes mails, par exemple, comme le disent les CGU, donc les conditions générales d'utilisation de Google.
Oui, mais justement, on a autorisé, on va dire, l'entreprise à accéder à ces mail. Est-ce qui
parce que tout le monde utilise Gmail et je ne sais pas. Tu utilises quoi d'autre comme mail? Dis-moi, tu as quoi comme
boîte email. Comme merci. Merci, j'ai du mail de mon grand frère qui l'a créé afin que les données soient sécurisées.
OK, mais c'est toi par exemple,
moi j'utilise la boîte mail de l'UTC. Mais
tu peux pas utiliser la boîte mail de l'UTC pour tout non plus. Enfin, t'as besoin d'une boîte personnelle.
Principalement.
Oui, d'accord, mais la boîte UTC, elle te sert uniquement pendant 5 ans. Excuse-moi.
Ouais, pendant 5 ans, tu l'auras plus après, tu perdras tous tes contacts.
Et sinon, j'utilise également une adresse mail qui vient donc d'un hébergement web, d'un hébergeur. Au nom, je ne sais pas si je peux divulguer ce nom.
Mais y a pas de souci. Mais tu vois, alors pourquoi tu n'utilises pas Google? Et alors que c'est largement répandu, c'est plus simple
parce que tu as tous tes comptes. C'est pour une autre question.
C'est pas le big data, c'est Google me menace-t-il la vie privée?
On est plutôt dans là, cette question. Là on peut répondre.
Je pense qu'on s'écarte un peu du.
On ne s'écarte pas.
On s'écarte.
C'est une grosse entreprise qui utilise ces données. Je peux t'en citer plein d'autres.
Oui, mais ce sont des entreprises.
Tu as toujours des alternatives pour ça. Et je veux dire, par exemple, un mail, tu peux carrément prendre une autre alternative que utiliser Gmail juste parce que c'est populaire. Parce que envoyer un mail en soi, c'est pas une technologie incroyable, on va pas se mentir. Genre, ça existe depuis les années 80, 90. Voilà, ça existait même avant le web, je pense, envoyer des mails.
Excusez-moi, j'ai quand même une question par rapport à ça. C'est par rapport, je ne sais pas, à vos SMS ou qui sont envoyés à des particuliers, qui sont enregistrés par exemple et stockés. Est-ce que vous trouvez ça normal que ça soit stocké, etc., je ne sais pas, par exemple, par des opérateurs français qui ne sont pas censés, par exemple, les consulter ni les utiliser. On ne sait pas du tout ce qu'ils en font. Mais en tout cas, par exemple, les autorités juridiques et administratives peuvent, par exemple, y accéder. Est-ce que vous pensez que ça a une atteinte au niveau de la vie privée?
À partir du moment, Nasser, pour ma part, à partir du moment où tu prends les données d'une personne sans que la personne ait donné son accord ou soit consentante, parce que
justement, elle est consentante, personne.
Mais ça,
elle
ça,
a signé.
Tu
ne
sais pas.
Si.
Est-ce que... Oui, quand tu acceptes les cookies,
officiellement,
mais est-ce que
oui.
Réellement, si tu demandais à une personne lambda dans la rue, si tu demandais qu'est-ce que c'était les cookies, ils te répondent, c'est juste un truc qu'il faut accepter afin d'avoir des informations sur un site.
Donc c'est un manque,
non, c'est un manque d'informations, même, c'est aussi aux gens de s'informer, de faire leur recherche.
Je pouvais vous rappeler les lois du RGPD, et en fait, ce qui se passe, c'est que les entreprises, encore, violent un petit peu ces lois-là. Ils ne sont pas très honnêtes par rapport à ce qui a été fait pour le RGPD.
Et également, je voudrais dire
En fait, comme je regarde l'heure, je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps pour le débat. On a combien de temps pour le débat?
Il nous reste environ 3 minutes, je dirais.
Ok, bah, en gros, je sais pas si vous connaissez, vous savez c'est quoi le RGPD?
Oui.
Si vous avez entendu.
Le règlement général de la protection contre les données.
Ouais,
de la protection des données.
Ouais, c'est ça.
De données personnelles.
Et en gros, c'est arrivé juste après Cambridge Analytica et Snowden. Et en gros, ça demande d'avoir le droit à l'oubli. C'est-à-dire, l'utilisateur dit non, j'utilise pas mes données. Il y avait quoi d'autre, droit au consentement, tu peux pas utiliser mes données s'il y a ça. Et donc voilà, ça c'était. Et donc c'est une loi européenne, et donc tous les sites européens sont obligés d'accepter ça. Mais encore une fois, genre les législations ne sont pas prêtes pour bien inspecter, et je pense que là on a un vrai problème, et je vous rejoins parfaitement. Et je pense que ça, dans l'avenir, ça va être réglé.
Et on pourrait parler aussi des formulaires, du coup, qui recueillent nos informations et qui les divulguent, soi-disant, pour un jeu concours.
Donne-moi un exemple, par exemple.
C'est pas très clair.
Je sais pas si on peut citer de marque ou pas, mais par exemple, le Roi Merlin, des fois, ils font des concours et tu dois rentrer un certain nombre d'informations, ce qui fait que ça leur permet, eux, bon, hormis le fait d'offrir un cadeau, mais de cerner, entre guillemets, leurs clients.
En général, c'est plus les jeux concours comme ça, c'est plus ils veulent avoir ton adresse email pour que tu sois abonné à leur newsletter pour qu'ils puissent voir les nouveautés. Et que tu sois un potentiel nouveau.
Mais donc, dans la globalité, pour moi, je pense que c'est juste... C'est un problème d'information. On le voit aussi dans le sondage qu'on a fait. Il y a trop de personnes qui ne sont pas informées. Donc après, les gens se plaignent que leurs informations sont divulguées. Mais si je pense que si tout le monde était au courant qu'il y a des alternatives, si tu n'as pas envie que tes données soient prises, ou etc., d'autres boîtes mail, plus sécurisées, etc., je pense que les gens seraient plus sécurisés et auraient moins d'informations divulguées. Voilà. S'ils étaient plus informés.
Au lieu d'utiliser Messenger, ils utiliseraient des alternatives moins qui attaquent moins la vie privée, comme Signal. Je ne sais pas si vous avez entendu parler depuis le scandale WhatsApp.
Et oui, donc c'est un manque d'éducation, mais aussi une chose qui est pas mal de se dire, c'est qu'à chaque fois que l'on publie quelque chose sur Internet, n'importe quelle information, cela restera tout le temps en fait. Il y a toujours un moyen, il reste toujours des traces des informations qu'on a divulguées
sur Internet. Mais tu trouves ça cohérent, toi ?
S'agissant...
Comment te sentirais-tu si des entreprises connaissaient tes secrets ?
C'est juste impossible à supprimer sur Internet.
C'est juste impossible.
Non, d'accord.
C'est le fonctionnement même d'Internet.
Genre,
tu peux pas ne pas faire autrement, quoi.
Dans ce cas-là, on n'utilise pas Internet.
Ce qui serait bien, c'est qu'elle soit vraiment anonymisée.
Oui. Mais en réalité, ça peut jamais totalement être anonymisé, comme Internet ne peut jamais être 100% sûr. C'est un peu une vision utopique qui, en réalité, ne fonctionne pas.
Et maintenant, comment ces données seront utilisées ? En fait, c'est ça aussi qui fait peur. Enfin, excusez-moi, mais quand tu vas utiliser, par exemple, ta carte vitale, donc il y a un profil qui se fait sur toi, la quantité de graisse que tu as dans ton corps, tout ça. Genre, on commence à avoir un profil sur toi, et peut-être que dans le futur... En fonction de ton profil, c'est-à-dire l'application sera mieux que vous si vous êtes en santé ou pas, vous devrez payer plus cher ou pas. Vous voyez, les données, elles peuvent être utilisées pour des moyens très très...
Mais encore là, t'es au conditionnel, Olivier.
Elles ne le sont pas forcément déjà.
C'est ça, hein.
Mais aujourd'hui vous nous avez dit que c'était pas assez réglementé et qu'il y avait une fuite de données et du coup il y avait un problème au niveau des protections de la vie privée.
Oui,
ça vous l'avez affirmé aujourd'hui.
Mais demain, ça peut empirer. La sécurité continue d'avancer, de faire des progrès, et donc on est continuellement en train d'améliorer justement la cybersécurité et les technologies qui permettent de pallier, on va dire, à ce manque.
On va dire ça à la Chine.
Et à la fois
Je pense qu'on va pas tant parler de la Chine, c'est un peu un
sujet. Non, mais
c'est un sujet sensible.
Je pense qu'on va parler de la Chine.
Et on s'écarterait donc du big data.
Désolé de
vous couper. Est-ce que quelqu'un a encore une dernière chose à dire parce que nous avons coupé le débat ?
Alors oui, donc moi j'aimerais bien énoncer un dernier argument quand même. C'est le fait que, hormis que les entreprises, entre guillemets, ne respectent pas notre vie privée, elles font également creuser, entre guillemets, les écarts, donc c'est un des principaux inconvénients du big data, c'est que le big data profite aux plus grandes entreprises. Ce qui fait que, étant donné que les GAFAM, par exemple, possèdent la plupart des données sur des millions, des milliards d'utilisateurs, elles ont l'avantage de connaître, entre guillemets, ce que aiment les gens, ce que veulent acheter les gens, contrairement aux petites start-up.
Ce que je tiens à dire, c'est que le big data permet d'avoir des meilleurs rendements agricoles, de sauver plus de personnes qui peuvent mourir prématurément comme des bébés. Réduire les coûts.
Une partie minime.
Bah, c'est une partie minime, c'est une partie majeure.
Et c'est
pour ça qu'on développe le big data de base. Mais je pense que là, on doit finir le débat.
Est-ce que je peux juste finir par une petite réflexion ? Question ouverte.
Tu peux.
Question ouverte.
Tu peux totalement.
Ok, donc je veux juste dire, nos grands-parents se sont vraiment. On fait des guerres pour notre liberté. Et nous, on ne passe même pas une minute de notre vie à lire des conditions générales d'utilisation.
C'est un problème d'éducation encore, je pense. Mais bon.
D'accord. Mais juste une petite réflexion. Pourquoi nos grands-parents se sont vraiment battus
pour ça ? Est-ce que tu lis les conditions d'utilisation ?
Non.
Bah alors, c'est ton problème.
D'accord.
C'est notre problème à tous.
Parce que toi non plus, tu ne le fais pas.
Nous sommes tous dans la même situation.
Mais vous les lisez pas non plus?
Mais personne, ou très peu de personnes.
Je pense
que les conditions de l'utilisation
ne pas au-dessus des lois. Parce que je m'en fous, je ne lis pas parce que je m'en fous.
Je pense, qu'on s'écarte franchement très loin du sujet. Donc
une dernière phrase.
Mais on avait fait deux dernières phrases.
Deux dernières phrases arrivent depuis tout à l'heure. Nous avons coupé le débat.
Seulement un moyen.
Donc, pour résumer à peu près vos idées, vous avez parlé que le Big Data était une menace pour nos vies privées car elle vendait directement nos données, en gros, sur des sites web, etc. Genre quand vous essayez de vendre. Mais d'un autre côté, vous dites que le big data a beaucoup d'avantages et que c'était, je dirais, même peut-être agréable d'utiliser le big data, par exemple, pour d'entreprises, pour le rendement agricole, pour plein d'autres choses. Mais dans tout ça, comme vous en avez parlé à la fin, il y a aussi conditions d'utilisation. Donc après, on pourrait parler aussi de flemmardise, peut-être, de nos sociétés. Mais ça, je pense, ça sera un autre débat, peut-être pour le prochain semestre, je l'espère. Donc maintenant, nous allons passer à la musique. C'était du coup 24K Gold and Mood, du coup sur notre chère radio. Donc maintenant nous allons passer, je pense, au micro-trottoir. Nous avons plusieurs questions. Pour vous les rappeler, donc première question, faites-vous confiance aux GAFA par rapport à vos données personnelles, Facebook, Amazon, Apple, Google, donc les GAFA. Savez-vous ce que c'est le Big Data en deuxième question? Troisième question, publiez-vous souvent des posts sur les réseaux sociaux? Quatrième question, êtes-vous gêné d'être espionné constamment par votre téléphone? Et que pensez-vous de la publicité ciblée? Donc, ce que je vais vous demander, c'est surtout de réagir donc, à ces micro-trottoirs. Je vais vous les passer, donc vous allez juste réagir. Donc, nous allons passer avec la première question. Donc, première question, je vous le rappelle encore, faites-vous confiance aux GAFA?
Faites-vous confiance aux GAFA? Par rapport à vos données personnelles, je rappelle, les GAFA, c'est Google, Facebook, Amazon et Apple.
Alors personnellement, pas du tout, parce que bizarrement, je trouve, dès que je fais des recherches pour tel ou tel article sur Internet, je retrouve ces mêmes trucs, ou sur les réseaux, même quand, vis-à-vis des pages que je consulte, je retrouve ces trucs sur n'importe quel type de site Internet et tout, donc je me dis clairement, il y a un transfert de toutes mes données et tout, donc je ne vois pas du tout en quoi c'est protégé.
Donc, que pensez-vous de cette réponse?
Très intéressante, on peut voir que comme on a expliqué... Ah, tu voulais parler, Lucas?
Du coup, il défend entre guillemets notre camp sur le fait que Pour lui, les GAFAM ne respectent pas les données de la vie privée, le partage des données de la vie privée.
Alors juste petite interruption, non, parce que nous ne parlions pas des GAFA, mais donc bien du Big Data. Et c'est une question totalement différente.
Oui, mais il a donné l'exemple des produits qu'il regardait, qu'il recherchait sur Internet en utilisant le fait que, par exemple, Amazon.
La question était spécifique aux GAFA.
Et spécifique aux GAFA.
Vraiment spécifique aux GAFA. Exactement. C'est pour ça que je suis encore sur l'argument de l'outil et de l'utilisation. C'est que là, vraiment, les GAFA utilisent nos données pour nous espionner. Et ce n'est pas le cas de tout le monde.
D'accord, très bien. Donc, vous avez réagi par rapport à cette première question. Au niveau de la deuxième question, donc, qui est, savez-vous ce que c'est le Big Data? Donc, je pense qu'on peut la sauter, car il nous reste pratiquement plus beaucoup de temps, excusez-moi. Donc, nous allons passer directement à la troisième question. Publiez-vous souvent des posts sur les réseaux sociaux?
Publiez-vous souvent des posts sur les réseaux sociaux?
Sur Instagram, de temps en temps, oui.
Intéressant.
ok, pas... merci.
Mais sans plus, voilà,
elle publie, apparemment, cette personne publie des posts sur les réseaux sociaux.
De temps en temps.
On peut dire, de temps en temps. Ça veut dire que, elle, surtout Instagram en général, c'est tu laisses un petit peu voir ta vie privée aux
personnes. Exactement. Donc, elle offre des informations personnelles de temps en temps. À Facebook.
Après, ouais, là pour le coup là c'est complètement après, consentement quoi. Enfin,
exactement.
C'est là,
c'est,
là,
double, c'est un double consentement.
Non, là on va arrêter de prendre les étiquettes pour et contre. Du coup je vais être un peu pour avec le groupe d'Oliver et Lucas pour dire que au bout d'un aussi tu peux te dire que quand t'es sur les réseaux sociaux tu publies qu'à une sphère privée tu vois et pas à la société en soi pour que tout le monde puisse accéder.
Ouais mais après quand
et pourtant mais quand tu sais réalité, que en réalité c'est utilisé par Facebook.
Oui, c'est ça, étant donné que Instagram c'est Facebook.
Après tu sais que c'est utilisé par Facebook mais tu sais certaines personnes qui n'ont pas forcément le savoir doivent se dire ouais je
c'est privé, c'est privé. Exactement.
C'est que okay. Mes 100 amis sur Instagram qui connaissent
alors que en réalité ce n'est absolument pas le cas.
C'est pour ça qu'il y a de la prévention dans les écoles.
Merci de votre avis par rapport à ça. Donc maintenant, on va passer à la quatrième question. Êtes-vous gêné d'être espionné constamment par votre téléphone?
Êtes-vous gêné d'être espionné constamment sur les réseaux sociaux, sur Internet en général?
Gêné, c'est peut-être un peu fort. Après, c'est sûr, c'est toujours déstabilisant de se dire qu'on est un peu espionné et tout ce qu'on fait, bah... ça a des répercussions et c'est répertorié. Voilà.
Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça déjà?
Là aussi, il y a encore une fois l'espèce de consentement. Quoi. Enfin, on est espionné, mais d'une certaine façon, et comme vous l'avez très bien dit, on accepte. On l'accepte un peu. Donc c'est difficile, ça devient très difficile là, dans le sens où il n'y a pas vraiment les lois qui peuvent suivre étant donné que nous-mêmes on a signé l'accord.
Non, je pense qu'il y a aussi un autre truc qui passe, tu sais, c'est contrairement en Chine par exemple, c'est pas l'État qui passe par là, c'est plus une entreprise et tu te dis bon bah c'est juste pour mes données personnelles, c'est juste pour faire du chiffre, ça va pas trop me déranger, je pourrais pas aller en prison à cause de ça. Je pourrais pas me prendre d'amende à cause de ça.
Après ça c'est pour l'instant, on sait pas.
Mais si on instaure des nouvelles lois justement qui puniraient on va dire certains actes, que ce soit de ne pas prendre des données uniquement anonymisées, mais je pense que si on instaure certaines lois ça pourrait justement réglementer. Et
moi je vais prendre un autre exemple, tu vois, c'est quand toutes les applications Covid, tous anti-Covid, stop Covid ont voulu se mettre en place, les gens ont tout de suite refusé parce qu'ils disaient oui l'État va nous espionner, or que le consentement était clair et net que c'était juste pour par rapport au Covid et rien d'autre. Et que là, c'était très très bien.
Mais ça, on le sait jamais, parce qu'en soi, il y a, ça, y a oui, plein de choses qu'on ne nous dit pas. Quoi.
C'est jamais. Mais en vue de la situation, je pense que là...
Du coup, on va passer à la dernière question qui est, que pensez-vous de la publicité ciblée?
Que pensez-vous de la publicité ciblée?
Je trouve ça infernal, parce que j'ai l'impression que tous mes faits et gestes sont traqués et... Enfin, personnellement, je suis pas du tout quelqu'un Enfin, peut-être que je le suis plus que je le pense, mais je pense pas être facilement influençable. Mais juste quand je les vois constamment me mettre en pleine figure à acheter ci, acheter ça, parce qu'on est sûr que ça vous intéresse, moi, ça m'insupporte au bout d'un moment.
Votre avis dessus?
Moi, j'avais une question à poser à toute la table qui n'a pas trop de rapport. C'est, est-ce que vous avez déjà bénéficié de la publicité ciblée? Est-ce que grâce à la publicité vous avez trouvé quelque chose qui vous correspondait?
Pas du tout.
Pas du tout pour ma part non plus.
Si, moi, ça m'est arrivé une fois. Je cherchais des chaussures et j'ai eu une publicité du modèle que je recherchais. Après, je n'ai pas acheté forcément, mais ça m'a permis aussi de consulter un autre site. Donc oui, de temps en temps, je clique dessus, mais voilà. Ça ne me dérange pas personnellement. Après, c'est vrai que quand j'ai effectué l'achat et que je vois encore pendant 2 semaines les pubs passer, c'est ouais, pas très... Voilà, mais...
Surtout aussi, il y a un autre problème, c'est qu'en général, tu ne sais jamais si c'est des sites vraiment réglo. Quoi, tu voilà. vois, genre,
Souvent, non.
Ouais, souvent, non.
D'après mon expérience, mais...
Voilà, c'était juste ça. Et par rapport à ça, je peux comprendre parfaitement son ressentiment. Je pense qu'on est tous d'accord que des fois, tu cherches par exemple une fois un cadeau pour X personnes, tu le trouves direct et après t'es bombardé de trucs pendant un mois et t'es en mode... Ouais.
Alors je savais pas si vous êtes renseigné un peu, mais est-ce que vous connaissez la profondeur des détails que l'on peut faire lorsqu'on instaure un Facebook Ads, donc des publicités Facebook? Est-ce que vous savez jusqu'à où on peut aller dans le ciblage justement des clients potentiels, parce qu'on appelle même plus ça des personnes, en tant qu'entreprise, des prospects.
Ouais, c'est ça, en tant qu'entreprise et
en tant qu'entreprise, exactement.
Ouais, bah j'avais vu un documentaire aussi là-dessus et enfin franchement c'était
c'est effrayant
oui.
C'est effrayant parce que on peut aller dans des détails mais incroyables.
Quel type de population, quel type d'âge, quel
type de les amis. Alors on peut décider on va dire de cibler des personnes qui ont uniquement des amis appartenant à une certaine catégorie d'âge, de catégorie socio-professionnelle.
Surtout en voyant qu'est-ce qu'ils ont liké auparavant. Exactement, et tout, exactement. C'est assez effrayant.
C'est effrayant.
Je vous remercie de vos réactions. Donc maintenant, nous allons passer directement à une courte pause de musique. Du coup, c'était... voilà, oui. Du coup, c'était The Weeknd, Blinding Lights. Merci à eux. Donc maintenant, nous allons passer directement à un vrai-faux. Une seule question pour après ensuite passer directement au mot de la fin. Donc, vrai-faux. Le big data n'est apparu que récemment.
Je dirais faux.
Pour notre part, je dirais vrai dans le sens où avant, c'était juste le data et maintenant, c'est le big data.
Pour toi, ça serait apparu vers...
quelle année ? Je sais pas, je dirais dans 2015, à peu près. Environ. Peut-être un peu avant.
Je dirais dans les années 2000, quoi.
Oui, 2000 à peu près.
Donc, la réponse est faux. Et fausse, autant pour moi. Donc, 1997 est paru, en fait, la première fois le terme Big Data dans un article publié par la NASA. Et en fait, à l'époque, ces auteurs décrivaient le problème qu'ils avaient rencontré avec un ensemble de données volumineux qui surpassait la capacité de mémoire de stockage de leur disque local, enfin de leur disque qui était local ou même à distance. Et après, ce n'est cependant qu'en 2008 que le terme s'est popularisé, etc., comme vous le connaissez maintenant.
D'accord.
Vous avez quelque chose à dire par rapport à...
Non, je pense que...
D'accord. Donc, qui veut commencer avec les mots de la fin ?
Bah écoute, moi j'aimerais dire que j'ai beaucoup apprécié faire cette émission. C'était la première fois que, personnellement, je parlais à la radio, tout ça, donc j'ai trouvé ça très, très chouette.
Je pense que c'était une première fois pour tout le monde.
Ouais, je pense que c'est intéressant de pouvoir faire ça dans un vrai studio comme que Graphite A, d'ailleurs, que l'UTC nous propose.
Malgré la situation sanitaire, en
plus. Ouais, surtout malgré la situation sanitaire et le fait, justement, qu'il faille bien préparer les arguments pour pouvoir parler librement, je pense que c'était très intéressant.
Et même l'équipe, on peut dire qu'on s'entendait plutôt bien dès le début, et donc c'est pour ça que ça a assez bien marché, aussi. On n'a jamais vu ça comme une contrainte, et ça, c'était cool pour une idée, quoi.
Et puis, je sais pas pour votre part, mais en tout cas, pour ma part, ce fut une expérience très enrichissante. J'ai appris énormément de choses en faisant des débats avec vous. Et c'est limite très triste qu'on doit se quitter.
Ouais, voilà, c'est vrai. Ça, c'est vrai.
Alors, moi, personnellement, je voudrais remercier tout d'abord Clément Mabie, notre prof du coup de SI1. Et je tiens aussi à remercier du coup toute l'équipe, et même, je dirais, les studios de Graphite, autant pour moi. Donc, qui nous ont prêté le studio, avec qui nous avons beaucoup parlé, etc., pour essayer d'améliorer l'émission. Donc, vraiment, merci à eux, merci aussi à l'UTC, qui nous permet de faire des choses comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un a autre chose
et
à dire.
Je tenais également à remercier Léo, qui a toujours été présent lorsqu'on l'appelait de nombreuses fois pour des problèmes techniques.
Donc, merci beaucoup, Léo.
Merci beaucoup, Léo.
Vous ne voyez pas trop l'envers du décor, mais ça nous prenait une heure à préparer chaque émission. Voilà.
En tout cas, je remercie nos chers auditeurs de nous avoir écoutés durant ces 4 émissions. Et je vous dis peut-être à un prochain semestre. Au revoir tout le monde.